Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous revoilà dans le cadre de ce cycle d'émissions sur notre bien commun. Et nous abordons aujourd'hui, pour une deuxième émission, la dignité de la personne humaine avec Mgr Camiade. Bonjour Mgr.
Bonjour Jacques.
Dans la précédente émission, nous avions parlé, nous avions essayé de définir la dignité humaine dans sa vision chrétienne, avec cet homme qui est fait à l'image de Dieu et qui par conséquent représente, enfin du moins doit être sujet d'une dignité incomparable, et notamment pour cette raison. Et puis aussi avec Jésus-Christ qui nous a invités à voir en tout homme un frère, ce qui confère évidemment à l'homme de ce fait une dignité tout à fait particulière. Alors aujourd'hui, dans cette émission, j'aimerais, après avoir défini donc ce que nous avons fait la dernière fois, la dignité humaine et cet écho particulier que lui donne l'Évangile et la création à l'image de Dieu, j'aimerais qu'on voit sur un certain nombre de points comment l'Église se positionne aujourd'hui pour protéger cette dignité. Alors comment elle s'est positionnée? D'abord peut-être rapidement, historiquement. La première position que je vois prise par l'Église pour protéger la dignité des personnes a été l'élaboration d'une pensée sociale. Alors cette pensée sociale est essentiellement fondée sur le fait que toutes les composantes de la société et toutes les conditions sociales doivent être ordonnées et tous les moyens mis en œuvre, ordonnés pour que chaque personne humaine puisse atteindre son plein épanouissement. Alors, Mgr, à quelle époque peut-on situer le développement de cette pensée sociale de manière très brève, et quelle en a été l'origine et les principales étapes ?
En fait, la pensée sociale de l'Église, l'expression pensée sociale de l'Église est une expression assez récente, qu'on peut faire remonter à Léon XIII, où on disait d'ailleurs plutôt doctrine sociale de l'Église, mais elle s'enracine dans l'enseignement depuis les Évangiles, les pères de l'Église, en particulier saint Thomas d'Aquin, qui commence à penser la manière de vivre la foi dans la distinction entre la sphère de la pensée et la sphère de la théologie, de l'enseignement de la foi, et en essayant de distinguer pour unir ces dimensions-là. Voilà. Et donc la dignité des personnes fait partie des soucis de l'Église depuis toujours. On pourrait, même si c'est très méconnu et souvent d'ailleurs controversé, présenté de manière mal comprise, mais si on étudiait de manière plus précise le rôle de l'Église dans la lutte contre l'esclavagisme, par exemple, on verrait qu'il y a effectivement une pensée sociale qui en acte et une défense de la dignité des personnes qui a toujours existé, mais voilà, qui prend forme sous forme d'un discours construit, et d'un dialogue avec la société, notamment avec Léon XIII.
Alors la conférence des évêques de France, me semble-t-il, l'a déclinée sous forme de parcours qui s'intitule « Notre bien commun ». Mgr, pourquoi avoir choisi ce mot « notre bien commun » ? Pourquoi ne pas rester simplement au bien commun ?
Ou le bien commun. Il y a toute la question de la notion de bien commun qu'il faut à la fois rapprocher et distinguer de l'idée d'intérêt collectif. L'idée notre, c'est un nous, et c'est ce à quoi on est invité, c'est-à-dire constituer une communauté de l'humanité, se penser comme un nous. Déjà, c'est tout un programme. Si on est dans une société individualiste, ce qui est une tendance forte, je ne dis pas que la société est que individualiste d'ailleurs, ce ne serait pas juste, mais on a cette tendance à l'individualisme, on le voit tous aujourd'hui. Se penser comme un nous, déjà, ça induit une réflexion particulière. Quand on dit je ou quand on dit nous, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ça fait un peu penser au Notre Père, finalement.
Et on peut rapprocher ça, évidemment, de la prière du Notre Père.
Peut-on résumer en quelques mots ce parcours, notre bien commun, et dans quels domaines principaux il protège la dignité humaine ?
le parcours.
Oui, le parcours de notre bien commun.
Je ne sais pas si le parcours protège, c'est ceux qui vont suivre le parcours voilà, qui vont ensuite être engagés à protéger. Oui. Je pense que ce parcours est fait pour se former, pour que les chrétiens, ou tous ceux qui s'intéressent d'ailleurs à ce sujet, puissent réfléchir ensemble, débattre. Le parcours lui-même est pensé pour que des gens, des chrétiens ou des non-chrétiens, puissent réfléchir ensemble à partir de données, de réflexions, de témoignages et des principes de la doctrine sociale de l'Église. Et ensuite s'engagent, ce qui ne suffit pas de réfléchir, il faut aussi agir et se comporter en fonction de ce sur quoi on a réfléchi. Voilà, alors la protection de la dignité de la personne humaine, elle découle en fait de l'attitude concrète des personnes et des responsables dans la société.
Donc ça, c'est le premier domaine dans lequel l'Église est intervenue, enfin la première façon avec laquelle l'Église est intervenue pour protéger, pour intervenir dans la société afin de protéger la dignité humaine. Il y a un deuxième exemple auquel je pense, c'est le dicaster que vient de créer le pape François, qui s'intitule « Pour le développement humain intégral ». L'idée du pape François, me semble-t-il, a été de regrouper les quatre anciens conseils pontificaux qui étaient justice et paix, coronum, migrants et pastoral de la santé, afin, expliquait-il, de traiter toutes les questions de migration, de personnes dans le besoin, les malades, les exclus, les victimes de conflits armés et des catastrophes naturelles, les détenus, les chômeurs, et les victimes de toute forme d'esclavage et de torture. On a l'impression que le pape François, vous me direz si je me trompe, que le pape François a voulu ne pas disperser la protection de la dignité humaine dans tous les domaines, mais au contraire de la recentrer autour de ce qu'il appelle un développement humain intégral. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que j'ai une bonne vision là,
ça me paraît très, tout à fait juste. Et on le voit d'ailleurs dans l'encyclique Laudato Si, où le pape insiste sur l'unité, la manière globale de penser la vie de la société, le rapport à l'environnement, la dignité de la personne. En fait, on parle de développement intégral, on parle aussi d'écologie intégrale, on parle de rapport intégral à l'être humain. Le développement intégral de l'homme, bon, c'est Paul VI déjà qui avait développé ce thème.
En 1967, oui.
Oui. C'est une manière, par la structure, une réforme de la structure de l'Église, bien de prendre en compte cette intégralité de l'homme dans le domaine du développement. Donc la création de ce dicaster est tout un symbole, permet sans doute aussi de rassembler des efforts de différents services de la curie, qui peut-être faisaient la même chose chacune dans leur coin. Et on a toujours besoin en réalité de mettre les énergies ensemble, et c'est souvent plus efficace plutôt que quelques-uns qui travaillent chacun dans son coin. Il vaut mieux mettre en commun et en gardant évidemment toute l'ampleur de la réflexion. Il ne s'agit pas non plus de tout mélanger, mais il y a un lien profond en fait entre le rapport, la manière dont on accueille les migrants, la manière dont on prend soin des malades, la manière dont on se préoccupe des exclus ou des victimes de conflits, etc., de toutes les personnes en difficulté. Chaque réalité a ses spécificités qu'il faut respecter et considérer, mais finalement, on a intérêt aussi à regarder l'être humain.
Comme dit le pape, tout est lié.
Et tout est lié.
Voilà donc brièvement résumer ces interventions de l'Église pour la protection de la dignité humaine dans le cadre social, avec la pensée sociale qui s'est développée et cet effort, enfin cette vision du pape de regrouper plusieurs services pour être mieux le défenseur de cette dignité. Alors aujourd'hui, dans la société française cette fois-ci, on a un débat actuel sur les révisions des lois de bioéthique. Alors très brièvement, pour repositionner le problème, parce que là aussi l'Église va intervenir pour protéger une dignité humaine qui pourrait, par certains aspects, être atteinte. Donc la loi, je rappelle que la loi de bioéthique adoptée en 2011 prévoyait sa révision dans un délai maximum de 7 ans. Elle prévoyait donc que le réexamen parlementaire, qui va intervenir dans les 7 ans, c'est-à-dire probablement à l'automne 2018, serait précédé d'états généraux organisés par le Conseil consultatif national d'éthique. Ces états généraux ont débuté. Et on sait que les principales questions qui vont être évoquées sont, première question qui est d'importance, la modification génétique des embryons humains. Ensuite, l'élargissement de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Peut-être aussi, alors ce n'est pas au programme, mais ça risque d'être abordé par le Conseil national d'éthique, la GPA. Et enfin, autre discussion importante qui concerne la dignité humaine, l'euthanasie, c'est-à-dire la possibilité pour un patient souffrant d'une maladie incurable de demander à un médecin de mettre fin à ses jours, et le suicide assisté, c'est-à-dire la possibilité pour un tiers de délivrer un produit létal permettant à celui qui le souhaite de mettre fin à ses jours. Alors, on a un sondage IFOP qui a été fait à la demande de la Croix et du Forum européen de bioéthique. Et les personnes interrogées, à 89% qui considèrent que ces questions vont être un enjeu considérable, notamment pour la dignité humaine, se déclarent, et c'est ce qui est un peu surprenant, parce que l'opinion publique n'était pas tout à fait dans cet axe-là précédemment. Donc on a 60% de personnes qui se déclarent favorables à la PMA, pour les couples de femmes et femmes seules. 89%, c'est considérable, favorable à une ouverture de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté, et 64% favorable à la GPA. Quelle analyse, Monseigneur, faites-vous de ces débats sur la révision des lois bioéthiques et sur ce sondage récent qui est quand même surprenant sur la position des Français ?
Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai lu ces chiffres dans la Croix, j'avais été vraiment surpris parce que ça ne correspondait pas à l'image qu'on avait jusqu'ici. Ouais. Dans les discussions qu'on peut avoir avec des gens, je ne dis pas que c'est tout totalement contraire, mais ce n'est pas forcément ce qui ressort toujours. On peut faire cette analyse, dire... parce que bon, quel est dans tout cela le... Enfin, qu'est-ce qui pèse, quoi ? Enfin, pourquoi est-ce que, alors qu'on a tous quand même au fond de nous cette perception que voilà, le respect de l'enfant, du tout petit être dans le ventre de sa mère, de l'embryon, le respect de la vie, de la dignité de la personne humaine jusqu'au dernier instant de sa vie, nous-mêmes, on a du mal à se projeter pour savoir si un jour on est en grande souffrance, en fin de vie, quel sera notre... on souhaite pas non plus que n'importe comment on puisse prendre la décision de supprimer notre vie. C'est quand même des questions très compliquées, difficiles, et dans laquelle on sait que depuis toujours, la position de l'Église dit la dignité de la personne humaine est absolue, le respect de la vie est absolu. C'est pas quelque chose qui serait en option pour se demander est-ce que il y a des vies qui valent la peine d'être vécues, d'autres non. C'est pas ce point de vue qui est celui de l'Église habituellement, et en même temps on entend cette souffrance qui s'exprime beaucoup, et à travers cette souffrance qui s'exprime beaucoup, enfin c'est la prise en compte de la souffrance qui est derrière des prises de position qui disent il vaut mieux supprimer la vie plutôt que de souffrir. Cette prise en compte de la souffrance qui est compassionnelle et qui n'est pas forcément que négative, même il y a quelque chose de touchant aussi là-dedans, mais elle est aussi dans une considération un petit peu individualiste, c'est-à-dire je peux pas supporter la souffrance, mon émotion, je vais suivre mon émotion, voilà, prendre du recul pour se demander mais est-ce que c'est bien ou mal, c'est une autre attitude qui doit me mettre à distance de mon émotion pour me dire, mais est-ce que j'agis bien? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, par exemple, si j'ai le droit de décider qu'une personne ne doit pas vivre, qu'elle soit en fin de vie, malade, souffrante, etc., ou que ce soit un embryon dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, je dis que ce sont ces situations limites, extrêmes, mais demain, jusqu'où ça peut aller? L'autorisation de décider de vie ou de mort. Voilà, ça c'est une réflexion que l'Église nous invite à avoir, parce que si on se contente de dire émotionnellement, puisque c'est trop dur, je ne supporte pas de voir ça, donc je supprime. Et j'agis de manière violente quand même, parce que enlever une vie c'est toujours violent, même si c'est à travers une seringue ou un tuyau, où il suffit de tourner un petit robinet pour laisser passer une injection létale. Ça paraît un acte médical, mais en fait c'est quand même un acte violent de décider et de supprimer une vie. Voilà. Et je pense que cette réflexion-là, on a l'impression que dans la société, elle est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus l'émotion, ce que l'on ressent, qui domine. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus écouter nos émotions et ce que l'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être compatissant. Mais il faut arriver à prendre à la fois la mesure de tout cela et un peu de recul, pour regarder mais quel est l'enjeu et jusqu'où ça peut nous conduire, parce que ça peut quand même être assez effrayant tout cela.
Alors est-ce qu'il n'y a pas également une autre dimension? Pardon. C'est-à-dire que on a l'impression que aujourd'hui on va prendre en considération la souffrance qui est réelle, parce que le malade incurable qui est en état végétatif ou qui n'a aucun espoir de survivre subit une souffrance qui est complexe. Alors, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui le sentiment que pour soulager cette souffrance qui est réelle, on utilise des techniques médicales et on ne privilégie pas suffisamment ce qui pourrait être, par exemple, un accompagnement humain de la personne en fin de vie, et on a les yeux fixés que sur ces techniques médicales.
Et là, c'est là qu'on se demande quelquefois si on n'est pas un petit peu instrumentalisé par une pression économique, parce qu'évidemment, les soins palliatifs, c'est une chose admirable. L'Église soutient depuis toujours l'idée de soins palliatifs, c'est-à-dire même si on sait que par exemple, l'utilisation de certains produits comme la morphine qui vont soulager la douleur, vont inévitablement abrège la vie mais sans provoquer immédiatement la mort, puisqu'on est capable aujourd'hui de doser ces produits de façon assez précise, qui permettent à la fois de garder le maximum de conscience, de supprimer le maximum de douleur, enfin, de jouer sur plusieurs paramètres et sur plusieurs... Alors les médecins sont très, très compétents et très capables, les infirmières aussi là-dessus, de rendre la fin de vie d'une personne avec le moins de douleur possible. Il ne s'agit pas d'encourager la douleur, évidemment, mais ça demande aussi une présence, une écoute, un accompagnement, ça demande beaucoup de temps. Et donc forcément ça coûte aussi de l'argent, même si dans les soins palliatifs il y a beaucoup de bénévolat qui intervient aussi pour assurer une présence amicale d'écoute auprès des personnes, stimuler la vie des personnes, leur conscience, etc. Les unités de soins palliatifs font beaucoup appel à des bénévoles, et je suis heureux d'ailleurs de savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'engagent dans ce domaine-là, notamment c'est souvent des personnes qui ont vécu l'accompagnement d'un proche et jusqu'à la fin de sa vie, et qui se sont rendus compte de l'importance de cette présence auprès d'une personne malade, et qui continue de donner un peu de temps pour cela. Donc voilà, moi j'encourage en tout cas les chrétiens et tous ceux, les personnes de bonne volonté à se rendre disponibles pour aider et assurer des présences, un accompagnement dans le cadre des soins palliatifs, parce qu'il y faut des bénévoles. Mais évidemment ça demande aussi des soins techniques qui sont professionnels et qui ont un coût. Et c'est beaucoup moins coûteux d'abréger la vie et de faire par exemple une injection létale ou d'autres moyens. Alors bien sûr, on se demande si il n'y a pas un peu cette pression Dans une société qui cherche à, à faire des économies dans tous les domaines, à réduire les coûts, est-ce qu'on ne va pas vers là simplement pour des raisons économiques ? Je trouve que ce serait assez grave, parce que la dignité de la personne humaine passe finalement après peut-être certains conforts. Il y a peut-être d'autres domaines où on pourrait faire des économies parce que nous consommons énormément. L'accompagnement des personnes malades, la fin de la vie, le respect de la personne humaine, c'est peut-être quelque chose qui mériterait un investissement réel de la société. Voilà.
Oui, je crois aussi effectivement qu'on dirige un peu la réflexion des gens, ce qui explique peut-être le sondage surprenant, sur le fait que, il y a des techniques médicales qui permettent d'abréger la souffrance et on les préfère à tout ce qui est quand même plus compliqué, qui est l'accompagnement humain, qui est penser aux soins du plus faible, les soins, et non pas les techniques médicales, cette valeur du corps et puis cette intégrité de la personne qui devrait passer normalement au premier plan et qui s'efface un peu devant les techniques médicales. J'en reviens à la PMA et le Conseil national d'éthique a lui-même déclaré, et c'est assez surprenant aussi, qu'au vu des nouvelles façons de donner vie à des enfants, au vu de l'évolution de la société, au vu de la souffrance des femmes, le Conseil a déclaré être favorable à la PMA pour les femmes seules et en couple, ou en couple. Tout en reconnaissant quand même trois points de butée. Le premier, c'est les conséquences pour l'enfant de l'absence du père, avec l'ignorance des origines et le double lignage généalogique, la pénurie des gamètes qui risque d'entraîner la marchandisation et les problèmes posés par la gestion du financement par l'assurance maladie de cette PMA. Donc, malgré ces trois points de butée, le Conseil national d'éthique est favorable. Mais il est favorable, y a quand même, parmi le Conseil national d'éthique, 11 membres sur les 39 que compte le Conseil national d'éthique qui sont en désaccord avec cette position et qui ont déposé une pétition. On voit aussi, donc division au sein du Conseil national d'éthique, on voit aussi que les catholiques sont eux-mêmes divisés, notamment sur cette question de PMA. Ça va être difficile pour l'Église, Monseigneur, de se positionner face à cette
divergence. La position de l'Église, alors PMA, en même temps, c'est un terme un peu vague. Procréation médicalement assistée, ça pourrait vouloir dire tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire, ça a été admis pour les couples...
Ça a été admis par le Conseil national éthique, mais pas par l'Église.
Oui.
Pour plusieurs raisons, parce que dans les arguments contre qui sont donnés par le Conseil national éthique, consultatif national d'éthique, on oublie aussi le fait qu'en pratique, il y a plusieurs types de production d'embryons, soit directement dans l'utérus de la mère, soit en éprouvette et ensuite... Mais dans la plupart des cas, on produit beaucoup plus d'embryons qu'on ne peut en faire naître. Donc, on les détruit ensuite. Donc, il y a...
Ce qu'on appelle les bébés éprouvettes. Quoi.
Oui, on crée de la vie, mais il y a toujours ce qu'on appelle les embryons surnuméraires. Souvent, on les congèle. Parfois, on s'en sert pour des recherches médicales. Alors, théoriquement, ce n'est pas autorisé par la loi, mais... Il y a de graves problèmes éthiques autour de ces techniques, au-delà même de la question philosophique, symbolique, qui est elle-même est problématique, comme c'est dit. Mais il y a, en pratique, tel qu'on pratique aujourd'hui et tel qu'on sait faire la production d'embryons de manière artificielle, en fait, on détruit beaucoup plus d'embryons qu'on en fait vivre. Donc le respect de l'humain pose vraiment question. Et aussi, on se permet des... Alors parfois, il y a même déjà une marchandisation, en fait, de ces embryons, parce que pour des produits cosmétiques, pour... C'est caché, ce n'est pas dit. Oui. Et c'est pourtant une réalité grave, à mon sens. Voilà. Et après, il y a évidemment tous les enjeux symboliques qui, sur le plan moral, sont peut-être pas du même degré que ce que je viens de citer, mais qui sont des enjeux graves aussi, effectivement, l'absence de père pour l'enfant. La question aussi... Alors, dans la procréation humaine, l'homme et la femme qui donnent naissance à un enfant, selon la manière naturelle de faire, c'est le fruit d'une relation intime entre deux personnes qui s'aiment et qui naturellement donnent naissance à une troisième qui est une personne humaine aussi, avec toute sa dignité. Dès lors que même intervient un médecin pour poser un acte technique en complément de la relation sexuelle, il y a quelque chose, il y a encore une autre personne qui intervient, et là c'est une question symbolique qui interfère considérablement sur ce que c'est qu'en fait la naissance de la vie humaine. Donc ça pose aussi beaucoup d'autres questions sur le plan éthique.
Voilà, merci Monseigneur. Nous arrivons au terme de cette émission, la deuxième sur ces questions de dignité de personne humaine. Nous en aurons prochainement une troisième pour continuer le débat d'aujourd'hui sur les questions bioéthiques et étendre également la protection de l'Église sur d'autres domaines où la dignité est atteinte et que nous aborderons. Merci chers auditeurs de votre écoute. Merci à nos techniciens. À bientôt.